Bon midi, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'émission On en jase. Vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1, midi 1 exactement. Bon. Le midi, Gilto, c'est pas Gilto qui a un gros midi présentement, mais c'est Pablo. Parce que Pablo Rodriguez s'est pris la chicane à l'intérieur du parti. Marois Risky qui a congédié Geneviève Hines, sa chef de cabinet. Qui était la chef de cabinet par défaut de Marois Risky parce que Pablo Rodriguez n'est pas à l'Assemblée nationale. Et là, qu'est-ce que ça a fait? Pablo, il a dit à Marois Risky, bye-bye! Tu quittes le caucus du Parti libéral. Alors, très gros midi pour Pablo Rodriguez. Il est derrière des portes closes présentement à LCN. On filme la porte. Donc, j'ai hâte de voir Pablo sortir. Je vous le dis tout de suite. Dès que Pablo sort, on s'en va en direct à la TV et entendre ses commentaires. Pascal CV, comment vas-tu?
Ça va très bien. J'espère que tout le monde aussi.
Mais hein, Anthony Niacarini, comment tu vas?
Ça va bien. Je suis en train de prendre des photos de la télé parce que il est écrit, c'est plus dernière heure. Il est écrit dernière minute.
Dernière minute.
Puis là, je me disais vraiment l'histoire de la porte, là, c'est
ben
ça.
Oui, parce
là,
que là, on de minute en vraiment. Minute. Ben, moi, ça fait depuis 11h15 que j'attends que la porte ouvre. Avec une excitation d'un enfant qui a hâte à un cadeau de Noël.
Je seconde. Tu es effectivement très excité par cette crise politique au Parti libéral. On va manquer de popcorn.
J'aime ça, le chichi, moi, politique. C'est le fun.
Arrête
ça,
il y en a que je préfère, mais mettons, lui, je le trouve quand même gros. Fait que j'ai hâte de voir tous les détails.
Ah oui, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très gros. Et d'ailleurs, on va en parler dans le caucus avec Antonine Niacarini dans quelques instants. Mais avant, Pascal, c'est bon, on s'en va rejoindre quelqu'un parce que dis-moi là, moi, mon X marchait pas à matin, puis j'essayais de me commander des coupons sur Mercado, puis là, il n'y avait rien qui marchait.
Ton nouveau Twitter fonctionnait pas, les textos avec les auditeurs fonctionnaient pas, des sites de consommation fonctionnaient pas, et encore plus, pourquoi? Ben, c'est ça qu'on se pose comme question, puis moi, je me dis, on va aller parler à Patrick Mathieu, expert en cybersécurité qui est à l'autre bout du fil pour nous éclairer, parce que j'ai l'impression que ça arrive de plus en plus, puis y a-tu quelque chose à comprendre de ça?
Quelle bonne idée! Patrick Mathieu, comment vas-tu?
Hey, ça va bien.
Hey, merci beaucoup pour ta disponibilité ce midi. Patrick, explique-nous ça. Pourquoi il y a une panne majeure comme ça à l'heure actuelle?
C'est des choses qui arrivent, mais c'est arrivé là à peu près vers 7h du matin, plus ou moins. Cloudflare, qui est le concept là, initial, il offre beaucoup de services, mais le concept initial, c'est que c'est une protection de sécurité qu'on met devant nos sites web, nos infrastructures, etc. Puis toute requête, mettons qu'on va sur votre site, ça passe par eux avant d'aller sur le vrai site web, le vrai serveur. Mm. Et le problème, c'est qu'ils contrôlent, un peu comme le crash qu'il y a eu il y a quelques semaines là, avec AWS, et c'est qu'ils contrôlent une grande partie des organisations sur la planète. Fait qu'il y a à peu près 20% d'Internet qui est tombé à cause d'un problème. On ne sait pas encore c'est quoi le détail. C'est résolu, mais en partie. Fait qu'il y a des choses qui sont là. Mais tu vois, là, à peu près 20 minutes, la dernière mise à jour, ils disent qu'ils vont encore des erreurs, ils vont encore des problèmes. Ils sont encore en train de travailler là-dessus. Mais là, ça...
On se demande quand même.
C'est un wake-up call aussi, là.
Ben, c'est ça. T'sais, rapidement, Patrick, on a parlé de ça souvent ensemble. Qu'est-ce qui pourrait être derrière? T'sais, souvent, on va parler peut-être d'un hacking. Peut-être qu'on va juste parler d'un problème. Mais en même temps, on voit à quel point ça peut être important, les conséquences de tout ça. T'sais, là, on s'entend, Boulevard, le site là, qui soit en panne pendant quelques heures, c'est pas grave. Nos auditeurs nous écoutent sur les ondes, puis ils s'en font pas avec ça. Mais il y a aussi d'autres sites pour lesquels ça peut être très problématique, surtout quand on comprend pas ça vient d'où, non?
Oui, tout à fait. Puis là, on parle de, oui, ça protège les sites web, mais il y a aussi des architectes, des services qui protègent les infrastructures informatiques. Fait que ça se peut que ça ait impacté des choses là, un peu plus critiques. Puis on le saura évidemment plus tard, là, mais si on parle de systèmes en arrière des hôpitaux et autres, je ne sais pas si c'est allé jusque-là, mais il y aurait potentiellement problème. Puis la chose, c'est que vu qu'on dépend de cette organisation-là, parce que évidemment, c'est les plus reconnus, c'est les plus gros, c'est les moins chers, etc., ben quand il y a un problème du genre, ben on dépend d'eux. Fait que là, on tombe dans le concept là, du single point of failure, la seule un item spécifique là, qui fait tout planter. Fait que là, il faut que nos organisations se disent que quand il y a ce problème-là, il faut deux types de services pareils, qu'on passe de un vers l'autre s'il y en a un qui brise. Mais là, on dit ça aujourd'hui, on en parle à la radio, mais je suis sûr dans deux semaines, si on s'en reparle, Pascal, tout le monde va l'avoir oublié, puis il n'y aura pas de problème de régler, puis on va revoir ce problème-là se répéter éventuellement. Là.
Est-ce que ces grandes plateformes-là, et en terminant, Patrick, est-ce que ces grandes plateformes-là vont avoir du travail à faire justement pour améliorer la situation?
Bien, ça, c'est certain. Puis souvent, puis on va voir si c'est le cas-là, souvent, là, c'est un problème qui ont fait une mise à jour, qui ont changé quelque chose dans leur système, mais ils l'ont mal fait ou ils ont mal pensé à leur affaire, puis ça a planté, fait qu'ils vont s'ajuster comme ça. T'sais, si on recule d'un an et quelques, il y avait eu le crash là, de CrowdStrike qui avait impacté des millions de systèmes sur la planète, les aéroports, les hôpitaux et tout, parce que leur mise à jour n'avait pas fonctionné. C'était rien de malicieux. Mm-hmm. Mais c'était mal foutu, si on peut dire. Mais en même temps, qu'on dépend d'un logiciel comme ça qui s'installe dans nos choses, puis qu'on dépend de lui, il faut quand même une solution pour le retirer, pour avoir nos systèmes qui continuent. Parce que comme vous dites, oui, le citoyen de notre radio, c'est peut-être pas grave, mais quand on parle de banque et de gouvernement, là, l'impact peut être différent. Là.
Pour peut-être conclure là, cet entretien-là, Patrick, est-ce qu'il y aura possibilité pour le public de connaître qu'est-ce qui s'est passé où on va protéger l'information et donc pas être en mesure d'évaluer la gravité ou pas de l'incident?
Généralement, ce type d'entreprise-là vont aller être assez transparents pour aller dire qu'est-ce qui s'est passé puis comment ils ont résolu même le problème. Là, il va y avoir un genre de post-mortem assez technique. On espère que ça va arriver encore, là, mais généralement, c'est le cas. Il y en a eu plusieurs dans le passé, tu sais, dans la communauté, il y a comme une petite blague qui est souvent, c'est l'erreur du stagiaire, mais c'est déjà arrivé pour vrai de grandes entreprises qui un stagiaire a fait une mise à jour, tout a planté. Mais là, c'est devenu une blague parce qu'il y a eu beaucoup d'entreprises qui mettent ça sur cette faute-là. Là, je me surprendrais que ce soit ça, mais ça se peut que ce soit une erreur tout simplement humaine là, qui a mal vérifié leurs choses. Fait qu'on s'attend à ce qu'il y ait, oui, le détail. Puis je pense qu'à l'impact, tu sais, si on parle de plus de 20% d'Internet, sont mieux de faire un post-mortem assez transparent. Okay.
Patrick Mathieu, expert en cybersécurité, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous ce midi et on se reparle au besoin.
Tout à fait, merci. Là.
Salut, merci beaucoup. C'était Patrick Mathieu, expert en cybersécurité. Pascal, tu veux nous rappeler, c'est une panne majeure qui est produite présentement et qui met justement en panne plusieurs sites de médias sociaux, notamment la plateforme X.
Panne majeure de Cloudflare, il l'a dit, Patrick. Alors, beaucoup de sites qui sont perturbés. Hein. Ça va de l'accès à des réseaux sociaux à plein de jeux multijoueurs, à des robots conversationnels, entre autres ChatGPT, si vous cherchez votre collègue pour certains ce matin. C'est très complexe. Puis, il faut désactiver temporairement certains services pour les utilisateurs du Royaume-Uni pour faire, en fait, une résolution du problème. C'est capoté quand on dit qu'on n'est pas maître d'œuvre là, là-dedans. Ça s'en va même à travers le monde pour essayer de rétablir le système. Mais oui, puis tu sais, il y a des sites transactionnels, il y a des sites commerciaux, il y a énormément d'accès, puis il nous manque à savoir est-ce que ça a touché des structures gouvernementales, entre autres. Puis ça va être un questionnement supplémentaire.
Exactement. Donc, ça va être à suivre. Merci beaucoup, Pascal, pour cette information. On passe directement au caucus.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonin Iaccarini.
J'ai les yeux rivés sur le téléviseur en studio. La porte est toujours fermée. Pablo Rodriguez a réuni sa gang. Il a dit « Dehors, Marois Risky! » André Fortin, tu t'en viens leader la chambre. Puis Marc Tanguay, tu t'en viens comme whip. Antonine, on l'a pas vu venir, celle-là?
Ben non, on l'a pas vu venir de l'extérieur. Puis c'est ça le fond de la chose avec Marois Risky, c'est qu'elle est très populaire. Les gens l'aiment beaucoup. C'est une redoutable communicatrice. Mais c'est sûr qu'à l'interne, disons, sa cote d'amour était variable parce que c'est ce qu'on appelle une députée... comment dire? C'est payant, mais elle travaille beaucoup pour elle, selon les dires de plusieurs. Et là, je pense qu'elle a fait une gaffe majeure et elle est allée un peu trop loin. Je ne sais pas si le pouvoir d'être dans le bureau de chef parlementaire lui a monté à la tête, mais elle a décidé, Marois Risky, de sacrer dehors sa directrice de cabinet. Et là, c'est là que c'est bizarre, parce que c'est sa directrice de cabinet, oui, parce qu'elle est chef parlementaire, Mais c'est la directrice de cabinet de Pablo Rodriguez, en fait, parce que c'est son allié de toujours, Geneviève Hinze, qui a été sa directrice de cabinet à Pablo Rodriguez au fédéral. Donc, et un peu, c'était la personne de confiance pour Pablo Rodriguez, une assise importante au sein de l'aile parlementaire, lui qui n'est pas député, qui n'est pas nécessairement toujours dans le bureau du chef de l'opposition. C'est vraiment Mme Risky. Donc, elle a pris cette initiative, Mme Risky. Il semblait qu'il y avait des mésententes sur la stratégie à adopter et que Marois Risky n'était pas d'accord avec les orientations qui étaient proposées par Geneviève Hinze. Et il lui a dit « ça marche pas, tu t'en vas ».
Mais là,
t'as pas le pouvoir de faire ça.
Oui, parce que c'est Pablo Rodriguez qui l'a engagé et pas elle.
Ben, oui puis non. Oui puis non, parce que quand tu travailles à l'Assemblée nationale, ton boss, ton employeur, c'est ton député. Donc, les gens qui travaillent sur le payroll de l'aide parlementaire du Parti libéral, ils sont à l'emploi de la députée de Saint-Laurent.
De Marois Risky.
De Marois Risky.
Parce qu'elle était la chef.
Donc, en termes de RH de base,
oui,
elle a le pouvoir de mettre du monde à la porte.
Ouais.
Mais politiquement, en termes de loyauté puis de travail d'équipe, c'est sûr que la légitimité, elle est entre les mains du chef qui a gagné la course à la direction, le chef du parti. Quand le chef de parti est député, ben, tu joues les deux rôles, le chef de parti puis le chef de l'opposition. Donc, tu es l'employeur de tes employés. Mais là, ils sont dans cette situation étrange. Puis Marois Risky qui a décidé de prendre une décision unilatérale. Les employés, les députés, les officiers même du parti, donc quand on parle de whip, leader, etc., tout le monde a appris ça via un courriel hier soir, dans lequel on disait « c'est terminé, Geneviève Hinze se quitte » et à partir de maintenant, il s'agit d'Isabelle Laure qui prend le relais.
Quand on écoute ça, qu'on regarde ça nous autres là, comme simple électeur ou analyste externe, là, on se dit « OK, ben il doit y avoir quelque chose de grave. Il doit s'être passé quelque chose de grave pour qu'elle commente même pas la chose plus que ça. Puis en plus, qu'elle demande pas la permission à Pablo Rodriguez ou concerte pas Pablo Rodriguez, d'autant plus qu'il est proche de cette femme-là. Fait qu'on se dit ben, peut-être qu'elle a pris son rôle de leader en main puis elle a fait ce qu'il fallait pour pas se faire bloquer par Pablo Rodriguez si c'était grave. » On a-tu raison de penser ça?
Mais elle peut pas ne pas se faire bloquer par Pablo Rodriguez. C'est le chef. Donc, je sais pas qu'est-ce qui a
c'est
passé par la tête.
C'est zéro son pouvoir.
Ben, ce n'est pas sa place de faire ça. Elle aurait pu faire quelque chose du genre, écoute, Pablo, ça marche vraiment pas, moi puis Geneviève. Fait que c'est elle ou c'est moi. T'sais, ça, elle aurait pu lui donner la décision, tu tranches. C'est elle ou c'est moi. Mais elle a tranché elle-même, ce qui est vraiment bizarre. Là. Je ne sais pas ce qu'elle imaginait dans sa tête. Puis ça remet aussi en lumière un peu la décision dès le départ de Pablo Rodriguez de choisir Marois Risky comme chef parlementaire. C'est tentant de la choisir comme chef parlementaire parce qu'elle est bonne, est efficace, est probablement plus populaire que son parti, en fait.
Clairement. Puis, on ne se le cachera pas, elle attaquait bien François Legault, notamment sur le dossier des médecins. Là.
Absolument. Elle est très efficace. C'est dur pour François Legault de rentrer dans Marois Risky puis de gagner des points. Elle oublie ça, là. C'est vraiment difficile. Mais en même temps, Marois Risky, c'est comme une espèce de Ferrari un peu dur à contrôler.
c'est un électron libre?
Ben un peu. Puis depuis ses années en politique, moi, je trouvais qu'elle s'était un peu assagie parce que des fois, elle faisait des sorties un peu à l'emporte-pièce. C'est sûr qu'elle est arrivée dans un contexte où il y avait une course à la direction dans le temps qu'il y avait, ben, en fait, juste avant le couronnement de Dominique Anglade comme chef du parti, il y avait un autre candidat, Marois Risky, à appuyer l'autre candidat. Elle fait toujours les choses un peu différemment, Marois Risky. Et à l'époque, on le disait déjà là, dans les couloirs que c'était pas nécessairement la joueuse d'équipe. Là, que c'était quelqu'un qui partait un peu avec son ballon toute seule. Il y a eu plusieurs anecdotes, mais ça reste à l'interne. Donc, les gens ne savent pas ça. Ce qu'ils voient, c'est la députée efficace. Donc là, ça amène la question. Dans toute cette chicane-là, puis l'exclusion de Marois Risky, est-ce que les gens qui sont pas dans les corridors de l'Assemblée nationale vont trouver que Pablo Rodriguez avait donc raison ou ils vont dire, ben, en fait, ils vont voir la crise? Est-ce que Pablo Rodriguez va comme perdre des plumes aussi? Parce que les gens vont dire, ah, il a exclu une femme qui était efficace. C'est probablement parce qu'elle rayonnait beaucoup trop puis qu'il avait l'air pas bon à côté d'elle, ce qui n'est pas complètement faux, faut se le dire.
Oui, est-ce que Pablo Rodriguez a un squelette dans son placard?
Ben, je dis non. Ben, je le sais pas. Je suis pas allée dans le placard de Pablo.
Parce que pour qu'elle fasse ça de façon catégorique, puis là qu'elle se lance en face à face avec.
C'est ça.
En sachant très bien qu'elle, dans 4 ans, revient. Mettons qu'on est dans le scénario qu'elle va revenir. Il me semble que je me dis, elle attaque quelqu'un, qu'à un moment donné, il y a de quoi qui va sortir sur lui, puis elle va dire, haha, voilà pourquoi je l'ai faite.
Ben, en fait, Pablo, je ne sais pas personnellement pour lui, mais c'est sûr que, bon, là, on a appris aujourd'hui qu'il y avait des informations qui avaient été transmises au directeur général des élections sur Geneviève Hinze. Donc, il y aurait comme une plainte contre elle. Là, je veux vous dire que quand tu fais plusieurs campagnes électorales dans ta vie, une plainte au DGE, ça peut arriver. Là. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une affaire grave, mais ça peut aussi être une affaire grave.
Bon, fait que là, je ne suis pas obligé de dire coupable tout de suite.
Non. Okay. On va lui laisser le bénéfice du doute. Donc, étant donné qu'il s'agit de Geneviève Hinze, ben, on pense qu'il y a deux campagnes qui ont eu lieu depuis qu'elle est là. C'est la course à la chefferie puis l'élection partielle dans Tabasco dans laquelle elle était très peu impliquée. Elle était en train d'organiser le cabinet à Québec. Donc, ça risque d'être une plainte dans le cadre de la course à la chefferie. Auquel cas, ça vient de libéraux. Donc, c'est comme une inside job un peu. C'est,
ouais.
Ça peut être des anciens adversaires qui sont frustrés, qui sont restés amers. Ça, c'est, évidemment, normalement, ça vient d'une autre équipe que la tienne. Il faut dire qu'il y avait quatre autres candidats, Charles Milliard, deux autres candidats un peu moins connus, M. Roy et M. Bélanger. Et il y avait aussi Carl Blackburn dont l'équipe est sortie un peu amère. Mais je ne veux pas les accuser, là, mais c'est vrai qu'il y avait de l'animosité là, entre les équipes là, après. Sauf que Charles Milliard... il s'est un peu réconcilié parce qu'il a dit qu'il allait se présenter à la prochaine campagne électorale. On l'a vu aller militer dans Arthabasca pendant l'élection partielle. Donc, bref, à suivre. Mais peut-être, oui, que c'était une des motivations de Mme Risky, mais pour l'instant, elle refuse de commenter. Elle a fait aucun commentaire.
Exactement. On va l'entendre d'ailleurs là-dessus.
Absolument, vous nous parlez davantage. Vous êtes toujours au fond, mais ça doit être une situation embêtante pour qui, pour lui et pour vous. Comment allez-vous?
Moi, je vais bien. J'aurais toujours encore la même réponse, puis je sais que ça peut être frustrant quand c'est la même réponse, mais j'ai pas de commentaire pour l'instant.
Est-ce que le Parti libéral du Québec a toujours un chef en ce moment?
Donc, pas de commentaire pour le moment pour ce qui est de Marois Risky.
Et ce qu'on comprend, c'est que Mme Risky s'est présentée avec un avocat et que Mme Hinze s'est aussi dotée d'un avocat. Alors, c'est pas terminé tout ça. Donc,
c'est ça
garde mal.
C'est particulier, puis tu sais... Y a-t-il été impulsif, Pablo Rodriguez, dans sa décision actuellement ou il aurait dû prendre un pas de recul?
Non, il n'a pas été impulsif. Quand il arrive quelque chose comme ça, c'est un bris de confiance et il aurait eu l'air d'un paillasson devant son caucus, de laisser passer un tel affront. Ce genre de communication-là qu'on envoie à tout le monde, premièrement, il y a des cercles dans une équipe politique. Il aurait fallu... Tu sais, les officiers, d'habitude, tu les consultes. Tu fais pas juste les informer de quelque chose, tu les consultes idéalement. Là, ils l'ont appris par un courriel en même temps que les adjointes puis les recherchistes. Là. Ça a comme pas vraiment de bon sens. Et cette nouvelle-là aurait dû arriver de Pablo Rodriguez. Pas comme dans un monde parallèle où il n'est pas. Là. Ça, c'est vraiment passé par-dessus la tête du chef et il ne pouvait pas, il y a un bris de confiance, il ne pouvait pas continuer comme ça, il fallait qu'il pose un geste. Si jamais il l'avait laissé en place, sa crédibilité auprès de son caucus aurait été entachée. Maintenant, il y a d'autres rumeurs. J'ai vu Jonathan Trudeau, le chroniqueur politique, qui, tantôt sur X, disait qu'il pourrait y avoir d'autres démissions. Moi, j'ai entendu parler de personnel politique qui songeait à quitter, mais...
Son mari va quitter? Là.
Ben c'est ça. Parce que le chum de Marois Risky est également député, Greg Kelly. Disons qu'il est à risque de suivre sa conjointe, évidemment. Sinon, bonjour l'ambiance. Ça va être soit bonjour l'ambiance au caucus ou bonjour l'ambiance à la maison.
C'est ça.
Toutes ces réponses-là. Donc, pour M. Kelly, ça le met dans une drôle de situation pour l'instant. Puis on rappelle que Marois Risky avait l'intention de quitter à la fin de son mandat.
Ouais.
Donc, c'est un peu dommage aussi.
Ça soit un départ comme ça.
Parce que j'entends des gens qui disent c'est un putsch, ils ont fait un takeover de... Oui, mais elle s'en va. Donc, moi, je pense pas que c'était une tentative de prendre plus de pouvoir. J'ai l'impression que c'est tout simplement une mauvaise lecture de c'est quoi ton rôle et des réflexes individualistes, finalement, de la part de l'ancienne chef parlementaire du PLQ.
Bref, c'est le monde à l'envers, Antonine, parce que pendant que le PQ a fait un congrès, on s'est tapé dans la main, on a dansé sur le rigodon, puis on criait « on veut un pays, on veut un pays ». C'est les libéraux qui se déchirent.
Oui, puis normalement, les libéraux sont très disciplinés. Là, depuis ce matin, d'ailleurs, pour patiner un peu, quand la nouvelle est sortie, ça répondait pas beaucoup au téléphone. C'était silence radio. Quand ce genre de crise arrive au PQ, là, il y a toutes sortes de monde qui sont prêts à commenter. Là, même
les gérants d'estrade sortent, les belles-mères, les beaux-pères.
Les libéraux sont plus sages, d'habitude. Par contre, pour Pablo Rodriguez, ce n'est pas une
Là, la porte est encore fermée.
OK, je faisais des signes. Il pointait la télé, je pensais qu'on avait un
porte est toujours fermée du côté de Pablo.
C'est ça. Dans le fond, la salle où avait lieu la rencontre entre Pablo Rodriguez et Marois Risky, Marois Risky en est sorti et a offert zéro commentaire en disant beaucoup de
très
mots.
Très rapidement, ça a pris 10 minutes.
Ça a pris
10
minutes et c'était terminé. Et là, Pablo Rodriguez n'est toujours pas ressorti du bureau de Montréal. Mais moi, mon hypothèse, c'est qu'il s'est sauvé par la fenêtre.
Ah oui, tu vois. avec des draps attachés.
Exact.
Comme dans les bons vieux films
d'évasion
de prison. On passe au fédéral parce que hier, c'était le vote sur le budget. Et Antonine, cette dame a décidé de voter oui pour le budget.
I heard a firm commitment we will meet our Paris targets. That requires action very soon because the first target we're going to hit is 2030 and then 2035. Legally binding treaty commitments and a commitment to do far more than we've heard in the budget with funding for the Kunming Montreal commitments to nature, to stop beating up on Mother Earth and start the process of CPR. So, against what I had expected to say to you today, I'm going to vote yes for the country, for the planet.
Elle a voté oui pour le pays et pour la planète. Elisabeth May.
Une
la
chance que
chef
le...
du Parti vert, même s'il n'y a rien d'environnement dans le budget et dans les politiques de Mark Carney, elle s'est rangée derrière les libéraux.
Une chance que le ridicule ne tue pas, car ce n'est pas à Planète Terre, il faudrait faire le CPR, ce serait à Elisabeth May. Honnêtement, quand le gouvernement a rendu public son budget la semaine passée,
ouais.
elle a jeté le document sur le sol et elle l'a piétiné. Premièrement, les mises en scène, même en politique, ça me gosse.com.
Ouais, mais c'est comme Jack Meeting qui avait déchiré l'entente.
On n'a pas besoin de pièces de théâtre.
Il avait déchiré l'entente, mais c'est... après ça, il a dit « Oh, elle est où la colle? Parce que finalement, on va revoter oui! »
Exact, il était chassé le scotch tape. Tu sais, à l'impro, il y a des punitions pour cabotinage. Là. Moi, c'est ça. J'en distribue allègrement ces temps-ci. Donc, Elisabeth May qui piétine le budget. Et
ouais,
qui vote pour
qui
après,
vote pour.
Pour sa petite fille.
Oui.
Hein, pour la prochaine
exactement,
génération.
Exactement, parce que Mark lui a dit, inquiète-toi pas, on va les atteindre, les cibles de Paris. On n'a rien mis dans nos politiques pour ça, mais on va les atteindre.
On a enlevé la taxe carbone, on a baissé les plafonds, on a augmenté les plafonds. C'est pas grave, Elisabeth May, tout va très bien de son côté. L'autre qui a l'air un peu fou dans tout ça, c'est quand même Pierre Poilievre.
Ben oui.
Heureusement pour lui, Elisabeth May a tellement l'air folle que finalement...
Il est passé un peu sous le radar.
C'est un peu plus sous le radar, mais c'est vrai que il y a toujours des lignes assassines, c'est un chef de l'opposition qui est très agressif et là, on fait toute une sorte de tactique là, pour voter pour, mais voter contre, puis trouver des abstentions. On dit que, en fait, c'est le Bloc québécois qui a décidé de gagner la game de chicken hier parce que tous leurs députés ont voté contre. Puis ils ont dit, nous autres, on va voter contre. Fait qu'arrangez-vous les autres si vous voulez pas aller en élection. Nous, c'est pas la fin du monde. Et c'est vrai que pour Pierre Poilievre, c'est inintéressant de partir en élection maintenant avant son vote de confiance du début de l'année parce qu'il y a des doutes qui planent. Et moi, je pense, à moins qu'il y ait d'autres rebondissements, que son vote de confiance va bien se passer, ce qui lui donnerait une légitimité plus grande pour continuer, qui dissiperait finalement les doutes sur son leadership. Mais là, il n'a vraiment pas envie de partir en élection tout de suite.
Deux abstentions NPD, deux abstentions conservateurs. Matt Gineroux, pas une surprise, il a annoncé qu'il allait quitter. J'oublie le nom là, de la conservatrice qui a décidé. Stubb, exactement. Bon, Pierre Paulus, en entrevue ce matin, sur les ondes de Marceau le matin, sur les ondes de Boulevard 102.1, nous a dit « Ah, elle avait des ennuis de santé, elle n'a pas été capable de voter à distance. » Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai?
Écoute, eux, là, ce qu'ils ont fait, là, c'est qu'ils ont regardé mathématiquement combien il fallait qu'ils mettent de monde stand-by. On va surveiller le NPD, qu'est-ce qu'il fait. Ils ont vu que le Bloc allait tout voter pour. Ils ont vu Elisabeth May, ils ont vu... Bon. Et là, ils se sont dit, OK, Gineroux, il n'est pas là, il ne vote pas. Écoute, cher député qui a des problèmes de santé, dérange-toi pas.
C'est ça.
Okay? Parce que c'est un vote électronique. Elle aurait pu le faire, mais on avait gardé quelques députés comme un peu en réserve.
Mm-hmm.
Et si jamais on voyait qu'on ne gagnait pas mathématiquement notre pari, Andrew Scheer était prêt à avoir raté là, son vote et s'être enfargé dans le corridor en chemin.
OK, parfait. Parce que c'est pas grave, Andrew Scheer. Andrew Scheer a déjà été chef. Ça n'a pas marché. Fait que tu peux t'enfarger, toi, moi, Andrew.
Il s'enfargeait. Leader parlementaire. Donc, on n'était pas à l'abri quand même d'une erreur de whip ou de mathématiques. Là. Vous voyez un peu le jeu niaiseux là, pour réussir à finalement faire passer le budget sans qu'on dise qu'on appuie le budget. Honnêtement, je me dis à un moment donné, peut-être qu'il va falloir réfléchir à une manière de fonctionner qui est un peu différente quand on a des gouvernements minoritaires, parce que c'est du maudit niaisage, premièrement.
Ben oui.
Puis ça collabore pas très bien. T'sais, on a un gouvernement qui est minoritaire, mais qui gouverne comme s'il était majoritaire.
Clairement.
En se disant... Tu joues à check-in, on va jouer à check-in. Tu y aller en élection, moi, y aller, moi, ouais, en élection. Ça. Mais ça fait longtemps qu'on a une Chambre des communes qui n'est pas très productive. Il faudrait qu'on aille, disons, cette année, là, mettons qu'on se dit qu'on a des élections l'année prochaine, réalistement, avec ce gouvernement minoritaire-là. Ce serait le fun qu'il y ait 2-3 affaires qui aboutissent, s'il vous plaît. Ouais. Parce que l'an passé, il ne s'est rien sorti de là, là, de la Chambre des communes.
Non,
c'était bloqué.
Puis là, même là, McCarney, il y a le projet de loi pour faire accélérer les grands projets. Il a mis 12 grands projets sur la table, mais il n'y en a pas un présentement qui est dans le projet de loi.
Non, écoute.
Fait que, tu sais, c'est un peu n'importe quoi là, à l'heure actuelle. J'ai trouvé ça intéressant que tu dises le Bloc a décidé de ne pas jouer à Chicken et d'y aller. Puis là, je vais parler en langage de poker all-in. Parce que Mark Carney a justement lancé des flèches au Bloc québécois ce matin lors d'un petit scrum avec les journalistes à son entrée à la Chambre des communes.
Il y a une responsabilité pour tous les députés, y compris le Bloc. Alors, dans le budget, c'est le plus grand investissement dans la culture francophone, québécoise et canadienne. Et le Bloc, il compte ça. Il y a plus grand investissement dans l'électricité propre au Québec dans l'histoire du Canada. Et le Bloc, il compte ça. Les transferts à l'échelle fédérale au Québec de 29 milliards de dollars dans le budget. Et le Bloc, il compte ça. C'est une responsabilité. On a une responsabilité dans la Chambre de communes de voter pour l'avenir du Québec, l'avenir du Canada.
Pour l'avenir du Québec, pour l'avenir du Canada. On est déjà en campagne électorale du côté de Mark Carney au Québec parce que le Angus Reid que tu m'as montré ce matin, Carney frappe encore fort au Québec,
oui.
Frappe encore fort en Ontario.
Oui.
Les conservateurs ont perdu des points à ces deux endroits-là. Donc lui, Mark Carney, il dit « Si je veux ma majorité dans à peu près 6 mois, 1 an, c'est au Québec et en Ontario que ça passe, je refrappe là. »
Oui, puis l'Ontario, c'est la plus grosse source de circonscription, surtout la région
Exactement.
De Toronto. Tu fais le plein là, tu gagnes les élections. Et on le sait, là, le Québec a contribué énormément à faire
élire Mark Carney.
Avec pas énormément de députés du Bloc. Hein. Il y a beaucoup de comtés bloquistes qui sont passés vers le Parti libéral. Et quand même, là, après 4 mandats de Justin Trudeau, que finalement, tout le monde était vraiment tanné de lui. Là. C'est quand même un exploit. Maintenant, tu sais, le Angus Reid d'aujourd'hui, ce qu'il faut surtout comprendre, en tout cas, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que Pierre Poilievre vraiment est polarisant. Parce que c'était beaucoup un sondage qui tournait autour des taux d'approbation de popularité des chefs, donc de Mark Carney et de Pierre Poilievre. Pierre Poilievre, il y a 60% de monde qui ne l'aime pas, là. Tu sais, je veux dire,
c'est beaucoup.
C'est difficile quand tu es positionné comme ça.
Il est un peu comme Éric Duhaime. Éric Duhaime, c'est quoi? 50 à 56% des gens qui ne l'aiment pas au Québec.
Pis,
c'est dur, après ça, de devenir premier ministre.
Ben c'est ça, mais sa base l'aime beaucoup. Et l'électorat ne l'aime pas beaucoup. Donc, ça fait une stratégie qui est difficile à déployer parce que, par exemple, pour plaire à ta base, mais en même temps, pour plaire à l'espèce d'électeur moyen qui fait la différence dans la balance. Puis j'ai envie de dire aussi à l'intelligentsia montréalaise et d'Ottawa et de Toronto, là, l'élite médiatique, mettons, qui va dire si ce que tu fais, c'est bon ou pas bon, ben tu plairas jamais comme aux deux en même temps.
T'as raison.
Soit que tu fais plaisir à ta base ou soit que tu te fais applaudir par, Puis là, je parle peu comme une conservatrice là, avec mon élite médiatique, mais vous comprenez ce que je fais. Ouais.
Je comprends très bien. Hey, je termine, on parlera de la mise à jour économique plus tard en semaine parce que ça va avoir lieu la semaine prochaine. Puis on parlera de cette fameuse taxe à l'essence.
Ouais.
L'impression qu'on va avoir un petit cadeau au moins de la CAQ.
Les paris sont ouverts. On en reparle demain.
Je veux juste amener là-dessus parce que ça vient de sortir dans la presse. Livre bleu sur l'indépendance du Québec. Le PQ veut donner le Québec à Donald Trump, lance Mélanie Joly.
Eh oui.
Là, les libéraux, ils attaquent le Bloc, ils attaquent le PQ, ils sont partis eux autres. On veut
en
notre
référendum.
Majorité. Go, 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 Canada, Canada,
on
Canada.
On est en campagne référendaire, là, les amis, là, à Ottawa. Ils sont sur le bord de partir en autobus, écrit non dessus. Là.
C'est ça,
à
on est là. Mais là, les Jeux olympiques arrivent au mois de février. Non. Fais-moi pas cette face-là, Antonine Iacarini. Quand il y a des Jeux olympiques, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une montée du patriotisme canadien.
Moi, je compte sur certains athlètes pour se dessiner des fleurs de lys ses joues.
Imagine quand on va gagner...
Oh, la campagne référendaire aux Olympiques. Ah ouais.
Imagine quand on va gagner la médaille d'or au hockey masculin. Mm. Comment qu'on sera plus souverainiste?
C'est possible. T'as raison. Hein. Ça se peut très bien.
Hey, c'est l'émotion.
Regarde, le PQ a perdu combien de points cet automne? 6 points?
Ouais. C'est parce qu'il parle d'indépendance.
Non, c'est pas nécessairement pour ça.
Non?
Peut-être.
Je faisais un lien trop rapide.
Ben, je pense que les libéraux étaient moins mauvais que mettons, dans les dernières années. Oui, le référendum dans le premier mandat, il y a des gens qui rentrent à la maison, qui étaient venus voir ce que Paul Saint-Pierre Plamondon avait à leur offrir parce qu'ils l'aimaient bien, mais que c'était pas des voteurs naturels du PQ. Donc, on retournait un peu plus vers le parti libéral. Puis, je pense aussi qu'il y a certaines personnes qui ont découvert que M. Saint-Pierre Plamondon était un peu grognon des fois, puis peut-être que ça peut déplaire.
Et là, amis souverainistes, attention, on est en train de donner, Pascal. On donne notre pays à qui? Au diable en personne, Donald Trump.
Aucune exagération.
Un mannequin.
Franchement.
On va devenir le 51e État si on se sépare.
À soir, on fait peur au monde, là, puis pas rien qu'un peu. Là. Franchement.
J'espère que tu comprends mon sarcasme.
Bien sûr! Je ris de Mélanie Joly, pas de toi.
418-971-1021. Avez-vous peur d'être annexé aux États-Unis si on se sépare?
Je veux juste dire quelque chose en terminant. Après ça, je m'en vais, parce que je m'en ai à Rimouski. Mais je veux juste vous dire que si les États-Unis voulaient annexer le Canada au complet, ils sont capables. Hein? Ça n'a pas rapport avec... On n'a pas plus de chance.
Fait qu'imagine si on est juste le petit Québec.
On parle français. J'ai déjà entendu Donald Trump dire que ce serait compliqué, il parle français.
Fais-tu, là, fais-tu les textes à Mélanie Joly, toi, ce temps-ci?
C'est ça. OK, il faut que j'arrête mon sarcasme.
C'est vrai, c'est louche. Je vous ai jamais vu dans la même pièce en même temps. Vous êtes
d'abord,
la même
c'est calculé.
Mélanie Joly. En attendant, parlant de pièces, la porte est toujours fermée pour Pablo Rodriguez. On est là-dessus jusqu'à 14h à l'émission On en jase. Dès que la porte ouvre, on s'en va entendre les commentaires de Pablo Rodriguez qui a été mis dans le trouble par la chef qui avait nommé Marois Risky. On le rappelle, elle a été exclue du caucus du Parti libéral du Québec pour avoir congédié sa chef de cabinet, Geneviève Hines, qui était, au passage, la chef de cabinet de Pablo Rodriguez.
Vous avez des informations concernant une possible intervention en Haute-Ville, intervention policière 418-971-1021. Vous êtes nos yeux, nos oreilles, comme d'habitude. Moi, j'arrive pas à avoir de l'information là-dessus. Si jamais vous êtes dans le coin, en Haute-Ville, peut-être une opération policière.
Ouais. Hey, Anthony, avant que tu partes, il faut que je te lise une coupe de texto. Là, check-moi ça. Là. La vraie question, faites quoi des Canadiens de Montréal si le Québec se sépare? On les appelle les Québec de Montréal!
Oui, mais là, ça, c'est une autre affaire, Jeff. C'est que Canadiens, c'était notre nom aux Canadiens français.
Ouais.
Ils ont volé notre nom, ils ont volé le nom du pays, ils ont volé notre hymne national, puis là, ça y est, il faudrait tout leur donner.
Ben là, qu'ils se trouvent un autre nom.
Ils volent la poutine, à part de ça.
Qu'ils se trouvent un autre nom, puis ils toucheront pas à ma poutine.
Hey, c'est ça.
Saviez-vous qu'on peut être annexé aux États-Unis? En Louisiane, il y a des Français. Imagine, on aurait une communauté frère.
Bien sûr.
Si on était annexé aux États-Unis.
Oui. Il y a moins de monde, de moins en moins de monde qui parle français à Louisiane.
OK. Pascal Antonin, donnez-moi donc ma pénalité à l'impro pour cabotinage.
Cabotinage.
Que je pèse sur le piton. Roger Ferland, ex-enquêteur du SPVQ, avec nous parlant d'intervention policière après la pause. On va revenir sur cet homme qui est rentré pas à peu près dans le poste de police hier, Pascal. Hein? Proche de la salle de repos, il y a des accusations, si je ne me trompe pas, de tentative de meurtre contre cet homme. On va parler de tout ça avec Roger Ferland. Je sais pas pour toi, Pascal, mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Est-ce qu'on protège bien nos policiers à Québec? »
Ou on pense qu'ils sont protégés parce qu'ils sont la protection.
C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça va être très intéressant de parler avec Roger Ferland immédiatement après cette courte pause. Puis je vous promets un peu moins de cabotinage à Boulevard 102.1.